Madame Julien. Monsieur Julien, aujourd'hui, va nous décrire la société saint-antoninoise au XVIIe siècle. Quelle musique avez-vous choisie pour illustrer cette émission?
Eh bien, je pense pouvoir désormais illustrer ces pages d'histoire par de la musique d'époque. Sauf cas exceptionnel, une musique d'atmosphère me paraîtra plus appropriée. Aujourd'hui donc, après Michel Richard de Lalande, nous allons retrouver François Couperin, qui est né en 1668 et qu'on appelle Couperin le Grand, pour le distinguer de son frère Louis, moins connu. François Couperin, par ailleurs organiste de la chapelle royale, organisait pour Louis XIV vieillissant des concerts dominicaux avec orgue, viol de gambe, violon et violoncelle. Ce troisième concert royal, dont vous entendrez des extraits, est considéré aujourd'hui comme un chef-d'œuvre de la musique de chambre au temps du Roi Soleil.
Monsieur Julien, la semaine dernière, vous nous avez montré que le début du XVIIe siècle, s'il a été une période tragique pour nos ancêtres, a aussi été, en France en général et à Saint-Antonin en particulier, l'avènement d'un nouveau type de société. Et je crois que pour étudier ce bouleversement, vous possédez dans les archives des documents nouveaux.
À partir de 1646, en effet, apparaissent dans nos archives communales des documents nouveaux dont tu viens de parler, dont la consultation, conjointement avec celle des précieux registres notariés, apporte des informations précises sur la structure sociale, la condition des gens, les modes de vie et, bien sûr, la démographie. Ces documents, ce sont les registres d'état civil, dont la tenue avait été rendue obligatoire depuis longtemps déjà, exactement depuis 1539, plus d'un siècle avant, par l'ordonnance de Villers-Cotterêts, ordonnance par laquelle François Ier faisait obligation aux curés de chaque paroisse de noter sur un registre les actes de baptême, mariage et sépulture des habitants. C'est grâce à ces registres, dont la collection est à peu près complète à partir de 1646 pour Saint-Antonin, sinon pour les autres paroisses de notre communauté, que j'ai pu établir ce tableau de la société saint-antoninoise dans la seconde moitié du XVIIe siècle. Tableau succinct, car une étude sérieuse demanderait un travail de dépouillement et d'analyse beaucoup plus considérable que celui auquel j'ai pu me livrer. En cette seconde moitié du XVIIe siècle, la population de la ville et de l'ensemble de la communauté semble avoir retrouvé, puis accru très sensiblement, son niveau antérieur grâce à l'immigration. On trouve en effet de nombreux nouveaux noms dans les registres, et surtout grâce à une fécondité importante, autant chez les protestants que chez les catholiques. On relève en effet, pour la période des cinq années 1669 à 1672, pour l'ensemble de la communauté, du territoire communal actuel, si vous voulez, environ 200 naissances par an. Vous savez qu'actuellement, on en enregistre à peine une dizaine. Pour la seule ville de Saint-Antonin, ce chiffre est voisin de 150. Ce qui traduit l'importance de notre cité, où vivent les trois quarts des habitants et dont la population, qui avoisine les 4000 âmes, en fait la troisième ville du Rouergue, après Villefranche et Rodez. Les autres habitants de la communauté sont dispersés dans les fermes et les gros hameaux des cinq autres paroisses, qui sont Sainte-Sabine, dans la Luigeois, Servanac, Montpalache, Aliguière et Lamandine, dans le Quercy. Et le territoire de Lacan, appelé Rouergue méridional, était rattaché à la paroisse de Saint-Antonin, puisque sa paroisse, la paroisse de Peyrègue, n'avait pas été rétablie après les guerres de religion. Comme le nombre de décès, toujours annuellement, pendant la même période, s'établit autour de 100, qu'il n'atteint jamais ça, on n'atteint jamais le nombre de 100 décès par an, on enregistre chaque année un excédent démographique important qui explique cet accroissement de population, en dépit des lourdes pertes antérieures, guerres et sièges et pestes, etc. Ce qui fait qu'au XVIIe siècle donc, du moins dans sa seconde moitié, notre ville est en pleine vitalité, même si la vie, pour certains les plus nombreux, y est très difficile. La population est jeune.
Oui, justement, Monsieur Julien, c'est un peu étrange cette forte natalité dans une période que vous nous avez décrite la semaine dernière comme bien noire. Vous avez une explication?
Oui, mais je pense que c'est une explication simple. On peut constater, chez tous les peuples, mais actuellement même, chez tous les peuples qui vivent dans des conditions difficiles, une forte natalité. On peut constater dans notre histoire, à nous, en France, que toutes les périodes de troubles, où se sont produits des déficits humains considérables, des hécatombes énormes, comme pendant la guerre de 14, elle a été suivie d'une sorte de poussée de naissance considérable. C'est comme si, inconsciemment, les hommes et les femmes, mais s'en rendent-ils compte, avaient volonté de combler les vides que les fléaux naturels ou humains avaient creusés dans la population. Je crois que c'est l'explication. Et elle est de tous les temps, et je pense de tous les pays. Le nombre de mariages dans cette société jeune, c'est évident, va progressant d'année en année, passant de 30 vers 1650 à 40 vers 1670. Il augmente donc de façon considérable. Et toujours toutes les religions confondues, n'est-ce pas? Je ne distingue pas la protestant ou catholique. On se marie surtout en hiver. Ça vous étonne, ça, hein? Jeunes gens d'aujourd'hui qui choisissaient toujours le bel été d'août pour vous marier. On se marie en janvier. On se marie en février. Oh, on se marie aussi au printemps. En avril, mai, juin. Mais ça, c'est surtout les protestants qui choisissent de se marier au printemps. On se marie quelquefois en automne, au mois de septembre. Mais les catholiques, eux, ne se marient jamais. Ni en mars, ni en décembre. Et rarement en juillet et août.
Pourquoi?
Les catholiques d'abord. Et décembre, c'est le mois de l'Avent. Mars, c'est en général le mois du carême. Et il faut faire abstinence, jeune homme, ces périodes-là. Et puis ensuite, les autres mois, si vous les analysez bien, cette répartition des mariages dans l'année, vous verrez que les mariages se font pendant la morte saison des travaux des champs. Là, on a le temps. On n'est pas pressé par du foin à rentrer, ou des vignes à vendanger, ou des moissons à couper. Et chaque mariage, dans toutes les classes de la société, donne lieu à contrat devant notaire, que l'on soit riche ou pauvre. Et dans ce contrat, On peut lire une description extrêmement minutieuse des apports des uns et des autres. Nous aurons peut-être l'occasion un jour d'examiner un contrat de mariage. Ça nous porterait un peu trop loin. On n'a pas le temps de tout dire. On observe aussi que l'âge des mariés est variable, très variable. Mais les mariages de tout jeunes gens sont très rares. On ne voit pas de jeunes tourtereux, de 18 ans et 16 ans se marier. Ça n'existe pas. On se marie plutôt vers la trentaine, au moins pour les hommes. Les femmes sont quelquefois plus jeunes. Mais on rencontre quelquefois des appariements surprenants et qui choquent, tel celui-ci. C'est le mariage de Jean-Pierre Grimal, avocat en Parlement, fils de Pierre Grimal, bourgeois. Voyez, nous sommes dans la bourgeoisie riche. Eh bien, il se marie avec Marguerite de Marsa, fille de noble homme Louis de Marsa de l'Estang, seigneur de Saint-Michel. Il a 30 ans et il est riche. Elle a 15 ans. Et on voit sur le registre, et c'est touchant, que c'est une enfant qui a signé, parce qu'elle a signé elle, et elle a signé là en tirant la langue et en s'appliquant avec sa plume d'oie sur le registre, elle a signé Margot de Marsa. C'est joli ça. Hein? Exemple caractéristique de la promotion sociale des bourgeois et aussi de la décadence matérielle des nobles. Et puis il y a aussi ce mariage. Mais est-il si étonnant et n'y en a-t-il pas de semblable aujourd'hui? Celui de Jean Bess, laboureur de Lucas, là-haut sur le plateau d'Anglard. C'est un laboureur, c'est un paysan riche. Qui épouse à 60 ans. Hein? Qui épouse-t-il? Il épouse Marguerite Vallès, qui est une fille de brassier. Qui, la pauvre, arrivée à 35 ans, n'a pas encore trouvé de mari. Il est riche et sans doute encore vert. Elle est jeune, encore fraîche et forte. Ce sera une agréable auxiliaire pour l'exploitation et moins coûteuse qu'une servante.
Oui, là vous venez de nous citer deux mariages exceptionnels. Mais en général, quelles sont à cette époque les motivations du mariage? L'intérêt, le prestige, l'amour? Et puis, est-ce que les barrières entre les différentes couches à société sont importantes pour le mariage?
Oui, alors les motivations du mariage, je crois que là, il ne faut pas chercher. Ça a été comme toujours, du moins quand le mariage a été l'acte essentiel de la vie, non pas comme aujourd'hui. Je crois que, comme c'était il y a encore 50 ans, le mariage, l'intérêt a joué un rôle fondamental dans le mariage. On l'a vu par le mariage de la petite de Marsa avec Grimal. Il faut préserver la situation acquise, ça c'est le premier point. L'amour, pourquoi pas? Enfin, c'était des hommes et des femmes, hein. Et quand on me dit que l'amour n'existait pas au XVIIe siècle, comme on le voit écrire dans certains livres ou romans, je pense que c'est une imposture, ça. L'amour a toujours existé. Seulement, voilà, et ça, l'amour n'a pas toujours conduit au mariage. Hein. Parce qu'évidemment, les parents intervenaient, ne serait-ce que par le contrat de mariage, qui créait la situation des nouveaux époux. Mais alors là, les barrières entre classes sociales, ça existe. Sauf les cas exceptionnels que je viens de citer ci-dessus, hein, un peu avant, il est incontestable qu'on se mariait entre gens de la même classe. Ça, c'est incontestable. Il suffit de compulser les registres.
Vous pouvez essayer de nous décrire comment se passait un mariage?
Ah bien, là, je n'ai pas, et malheureusement, nous n'avons pas d'écrivain Saint-Antoninois qui nous ait décrit le mariage. Mais enfin, on suppose que c'était une cérémonie importante parce qu'elle donne lieu dans les registres de catholiques, surtout. Chez les protestants, non. Chez les protestants, le compte rendu, l'acte de mariage de deux époux, c'est extrêmement bref. On dit un tel et une telle ont épousé, et non pas se sont épousés, ont épousé tel jour, point à la ligne, signé. Et on signe la signature de l'officier, de l'état civil, si on peut dire. Tandis que dans le mariage catholique, on sent qu'il y a eu toute une préparation au mariage. D'abord, on annonce que les bans ont été publiés en chaire, etc., etc. Il y a eu une préparation des nouveaux époux et il y a eu une cérémonie à l'église importante puisque on y voit dans les contrats, dans les actes de mariage des registres, quand les gens savent lire et écrire, ils sont suivis, contrairement aux actes de baptême, les actes de mariage sont suivis de nombreuses signatures. Ça veut dire donc qu'il y a du monde qui assiste au mariage. C'est certainement l'acte d'état civil le plus important de la vie des habitants de l'époque, comme il l'était encore chez nous il n'y a pas très longtemps. Il donne lieu certainement à des fêtes, à des réjouissances, au cours desquelles les deux familles se confrontent, s'affrontent, se comparent, et évidemment font étalage, dans la mesure où elles le peuvent, de leurs richesses, de leurs possessions, de leurs biens. Ça, je crois qu'on n'a pas de mal, on peut décrire un mariage du XVIIe comme on aurait décrit, comme on décrirait un mariage d'aujourd'hui, dans lequel l'intérêt prime toute autre chose. Il y a évidemment de la musique de la cornemuse, c'est-à-dire la cabrette plutôt dans notre pays, et la musique des hautbois, et puis on a recours aux musiciens en titre. Dans le village et dans la ville, il y a un musicien qui est son métier, le nommé Antoine Ribeyrol, qui doit venir avec des comparses qu'il a engagés et qui, pam pam, ça fait la musique toute la nuit, etc. Parce qu'on était très joyeux aussi, en dépit des difficultés de la vie. La première naissance arrive en général dans la première année du mariage. Dans le mois de janvier, principalement, on enregistre le cinquième des naissances annuelles, parfois plus. Chaque nouveau-né est alors inscrit sur les registres et baptisé dans les jours qui suivent chez les catholiques. On lui donne alors son prénom, presque toujours un seul prénom, qui est celui, immanquablement, de son parrain, ou de sa marraine. Ses prénoms sont variés, sans doute, mais ceux de Jean, surtout, ça c'est le triomphateur Jean, Antoine et Pierre sont, et de bien loin, les plus fréquemment employés, toujours chez les catholiques. Pour les filles, on trouve fréquemment, dans l'ordre, la première, Marguerite, puis Jeanne, Catherine et Marie. Et plus rarement, et même très rarement, ces jolis noms qui sont Souveraine, Élix, Isabeau ou Fleurette. Il n'est pas rare que les enfants d'humbles familles soient parrainés par des personnes nobles, qui se font d'ailleurs représenter à la cérémonie du baptême. C'est surtout le cas des enfants de serviteurs et de métayers. Plus que l'acte de naissance chez les catholiques, c'est l'acte de baptême qui marque l'entrée dans la vie. Et l'enfant mort-né, s'il n'a pu être endoyé par la sage-femme ou par la coucheuse, sera enseveli sans qu'on lui ait donné de prénom. Aussi, en cas de naissance difficile, ce qui arrive assez souvent, malheureusement, quelqu'un, sage-femme, accoucheuse, chirurgien ou simple assistant. On doit à l'enfant, comme en témoigne ce curieux acte de décès. Musique.
L'an 1670 et le 12e de novembre a été enterré dans le cimetière un enfant mâle, fils de Jean Piessou tailleur et de Jeanne Montaigne, mariée, lequel n'ayant pu naître, fut baptisé sur un bras qui était l'unique partie de son corps qui parut, par Guillaume Piessou Brassier, son oncle sous-signé, avec moi et le dit Jean Piessou, présent au dit baptême et à l'enterrement.
Comme il était mort-né, on n'a pu le porter sur les fonts baptismaux. On n'a pu le baptiser à l'église. On n'a pu lui donner un prénom. Il n'a donc pas existé. Mais son âme a été sauvée.
Monsieur Julien, des naissances chez les catholiques et chez les protestants, qu'en est-il ?
Oui, j'ai voulu séparer parce que c'est quand même pas tout à fait pareil. Malheureusement pour les protestants, les registres antérieurs à 1668 manquent. Ils ont pourtant existé, ça nous en sommes sûrs, et ainsi en témoigne un petit cahier de 12 pages portant transcription des décès des protestants pour les années 1636, 1637 et 1638. Les actes de ce cahier sont signés du juge de la ville, le sieur Dupin, un ancien protestant devenu catholique, et non pas par le pasteur. Et alors, voici quelque chose de très curieux qui pourrait peut-être inciter certains d'entre vous à se débarrasser de documents qui devraient être aux archives municipales. Ce précieux cahier a été offert aux archives communales de Saint-Antonin le 6 octobre 1916 par maître Edmond Crayol, notaire à Lavore, qu'il avait, comme il l'explique dans une lettre qui est toujours dans ce cahier et qui est très touchante, il l'avait dans ses archives familiales. Pourquoi ? Parce qu'il était un descendant des Dupin. Puis, c'était une famille qui s'était anoblie, s'était appelée ensuite Dupin de Saint-André, et c'était une importante famille de la bourgeoisie saint-antoninoise au XVIIe et au XVIIIe siècle. Alors voilà comment ce petit cahier est revenu dans les archives communales, dit le notaire de Lavore, parce que les archives de Saint-Antonin, écrit-il à monsieur le maire Capin, sont fort bien tenues. À partir de 1668, dont j'en reviens à mon sujet, les actes d'état civil protestants sont dressés non pas par le pasteur, mais par un membre et souvent plusieurs membres du consistoire, c'est-à-dire la fabrique, si vous voulez, des protestants, les anciens. Et on observe que chez eux, le baptême ne suit jamais la naissance, mais qu'il a lieu plusieurs jours, et souvent, très souvent, plusieurs mois après la naissance. Le nouveau-né aussi, chez les protestants, est assisté d'un parrain et d'une marraine qui lui donnent leur prénom. On remarque aussi dans les registres protestants qu'à partir de l'année 1669, les nouveaux-nés de Verfeil et de la Guépie, j'entends toujours protestants, parce qu'il y avait des protestants à Verfeil et la Guépie, c'était des villes sœurs, si on peut dire, mais plus toutes petites, que les nouveaux-nés de Verfeil et de la Guépie sont inscrits sur les registres de Saint-Antonin. Pourquoi ? Parce que la religion protestante avait été interdite dans ces villes d'ordre de Louis XIV. L'enfant, chez les protestants, tire son prénom, donc, de son parrain ou de sa marraine, et c'est la liste que l'on obtient en relevant tous ces prénoms, je l'ai fait, est beaucoup plus longue que chez les catholiques. Et cependant, on relève là aussi une préférence marquée pour, dans l'ordre, et alors c'est curieux, le premier prénom le plus employé, c'est aussi Jean, comme chez les catholiques. Puis viennent Pierre et David. Et après, alors le choix se répartit, c'est très large. Et on n'oublie pas ces fameux noms bibliques comme Abel, Samuel, Ésaïe, Isaac, Daniel, Jacob, etc. Et j'en oublie, y compris Balthazar. Cependant que les filles, elles, on les appelle plutôt Marguerite, là, ça passera à dernier rang presque. Jeanne, voilà le premier prénom. Catherine, Marie, Isabeau, Marguerite et souvent aussi Anne. Mais il y a aussi Suzanne, Magdeleine, Cécile et bien sûr Judith ou Esther. Et l'absence de registres protestants antérieurs ne m'a pas permis une étude comparative qui aurait permis d'estimer l'importance relative des deux confessions, mais surtout l'évolution de l'une et de l'autre qui marque, après la défaite militaire de 1622, la régression du protestantisme dans notre ville du fait de conversion à la religion romaine, ce qui était le but premier du clergé local et la raison d'être des Capucins installés ici en 1622 par Louis XIII pour cette œuvre dite de salut. Pour la période 1669-1672, dont les registres ont servi de base à ce travail, on observe une très nette progression du nombre de naissances chez les catholiques qui passe de, en 5 ans, 52 à 91 par an. Tandis que la situation stagne chez les protestants, on reste autour de 70 et amorce un déclin qui va très vite s'accentuer.
On voit donc, M. Julien, que c'est par les religions que l'on peut connaître les naissances. Mais est-on sûr que tous les nouveau-nés étaient baptisés soit chez les catholiques, soit chez les protestants ?
Non, ce serait absurde de l'affirmer, n'est-ce pas ? Il y avait incontestablement des gens qui passaient à travers, ne serait-ce que ceux, dans une période où on s'est déplacé beaucoup, qui n'avaient pas de domicile fixe durable. Il y a aussi le fait que chez les protestants, par ce système de la non-déclaration, les protestants n'avaient pas cette sorte de hantise du baptême immédiat, et je l'ai dit, la déclaration suivait de plusieurs jours, quelquefois de plusieurs mois, la naissance. Il est possible qu'on ait oublié, là, des déclarations. Ça, c'est incontestable. Et il est impossible, évidemment, ce serait absurde de chiffrer le nombre d'enfants nés qui n'ont pas été inscrits. Mais enfin, il est assez considérable, certainement. Mais voilà, on ne peut pas dire non, on ne peut pas faire une estimation. C'est pas possible.
Le parrain ou la marraine donnait leur nom au nouveau-né. Mais oui. Quelle était leur importance dans la vie future des enfants ?
Bien, je pense que ce n'était pas une simple formalité. Je pense qu'on s'attachait des parrains et des marraines capables de remplacer les parents en cas de défaillance de ceux-ci, soit au point de vue matériel, soit au point de vue tout simplement existence, c'est-à-dire s'ils meurent, il n'y a plus personne. Et cela, je l'explique par de fait. Si l'on peut, on obtient que soit parrain ou marraine quelqu'un d'une classe plus élevée. On essaiera d'obtenir que ce soit le monsieur, ou le noble, ou le seigneur, ou le grand bourgeois qui soit, qui accepte d'être parrain de votre enfant, ou marraine. Nous l'avons dit d'ailleurs, ça tout à l'heure. Il y a un autre fait qui me paraît significatif. C'est qu'on choisit très souvent comme parrain ou comme marraine de l'enfant nouveau-né son frère aîné ou sa sœur aînée. Et pourquoi ? Sinon parce qu'on a l'espérance que les parents devenus vieux ou les parents ayant un accident disparaissant, l'enfant en bas âge pourra être secouru par quelqu'un de sûr puisqu'il est encore jeune. Hein? Et c'est ce qui explique d'ailleurs la permanence de certains prénoms, mais aussi le fait que dans une même famille, vous avez deux enfants, deux garçons qui s'appellent Antoine. Parce que c'est le petit, le plus jeune, s'il a eu comme parrain son frère aîné qui s'appelait Antoine, il n'y a pas de milieu, il s'appelle Antoine. Voilà. Alors, de là va naître ce système du surnom qui permettra de distinguer des gens de la même famille qui portent le même prénom, comme les cadets s'appellent Petit. Voilà.
Voilà, et ce surnom qui devient souvent plus important par la suite que le nom de famille.
Mais oui, qui deviendra plus important au point que sous la Révolution, on désignera souvent les gens par leur surnom et pas par leur nom.
Quel était le nombre moyen d'enfants par famille? Et est-ce qu'on trouve des variations selon le rang social?
Alors, d'abord des variations selon le rang social, non, cela n'apparaît pas. Et les familles de nobles me paraissent avoir été aussi nombreuses que les familles de brassiers. Encore que là aussi, il est certain que c'est chez les brassiers qu'on trouvera les familles énormes, si on peut dire, de 8, 9 ou 10 enfants. Mais je pense que la moyenne, non pas tellement à travers les registres d'état civil, parce que c'est pas facile, là on ne le dit pas, mais des registres notariés quand ils donnent les testaments, au moment où on fait la répartition, on s'aperçoit qu'il y a en moyenne 4 enfants, du moins vivants à l'époque de la mort du père. Mais enfin, ça doit s'établir, la moyenne, entre 4 et 6 enfants par famille, à mon avis.
Et est-ce que ces enfants étaient en général bien accueillis?
Oui, il n'y a pas de raison. Je pense qu'il n'y a pas de raison. Il l'était en fonction évidemment des qualités affectives des parents, mais ça c'est de tout temps. Il l'était en fonction de s'ils étaient désirés ou pas. Peut-on savoir s'ils l'ont été ou pas, ça c'est une autre affaire. Il est bien sûr que dans certaines familles malheureuses, misérables, illettrées, vivant dans des conditions de vie extrêmement mauvaises, il est sûr que là, la venue d'un enfant ne devait pas être tellement... C'était un accident de parcours, et puis c'est tout, et il se mêlait à la foule des autres sans qu'on s'occupe beaucoup de lui. Mais enfin, je pense que on a toujours eu, comme aujourd'hui, les mêmes sentiments à l'égard des enfants.
Il y avait des familles très pauvres, vous nous disiez à cette époque-là. Est-ce qu'il y avait des ménages qui ne pouvaient pas élever leurs enfants?
Ah, ça c'est sûr. Il est sûr que, surtout dans les périodes d'années difficiles, de mauvaises récoltes où le pain venait à manquer, et de nombreuses familles de brassiers ne pouvaient pas élever leurs enfants. Mais alors, ils bénéficiaient de l'aide, ou plutôt de l'aumône, des gens aisés qui vivaient tout près d'eux. Dans cette ville où les classes sociales étaient très marquées, très séparées, très distinctes, il y avait cohabitation des classes sociales. N'oubliez pas que même dans les beaux quartiers, les quartiers de la place de l'hôtel de ville, les quartiers du Bioc, derrière la place, il y a des petites rues. Dans ces petites rues vivaient des brassiers qui étaient en contact quotidien avec les grands bourgeois ou nobles de la ville. Et le spectacle de la misère des brassiers ne devait pas laisser indifférent, quoi qu'on en dise, et les hommes et les femmes de la classe aisée. Donc, l'aumône était chose courante, la charité, comme on dit, était chose courante, donner un peu de soupe, donner un peu de pain. Et puis, alors, il y avait ce phénomène triste et lamentable, c'est que les enfants de pauvres, très pauvres, allaient mendier. Mais il n'y a pas une très grande différence, je pense, entre la condition de vie de ces êtres malheureux au XVIIe siècle et celle qu'ont connue les plus âgés des Saint-Antoninois, du moins dans leur toute petite enfance, à Saint-Antonin, autour des années 1900.
Oui, et justement, à cause des enfants que les parents ne pouvaient, dans certains cas, pas élever, ou pour d'autres raisons, est-ce qu'il y avait, à cette époque, des essais de régulation des naissances?
Oui, ça aussi, ce n'était pas évidemment aussi facile, ni aussi légal, ni aussi aisé qu'aujourd'hui. Mais enfin, il est incontestable que quand on voit que les naissances se cristallisent, se rassemblent autour de certains mois de l'année, il est bien certain qu'il y a eu une observation de certaines règles de continence ou de contraception chez les époux qui a fait que les naissances intervenaient en ces mois-là plutôt que dans d'autres. Par exemple, il n'intervenait que très rarement des naissances en juillet et août. C'était quand même pas le hasard qui le faisait. On l'avait calculé. D'autre part, et compte tenu des qualités physiologiques de l'homme, il n'y a pas de raison, s'il n'y avait jamais eu de contraception, enfin, voulu ou pas voulu, peu importe, et il n'est pas de raison qu'une femme n'ait pas eu 20, je ne sais pas quel est le chiffre qu'elle peut avoir dans sa vie, mais 20, une quinzaine ou 20 enfants. Or ça ne s'est jamais produit. ou extrêmement rarement. Donc il y avait une certaine observation de certaines règles, de principes, d'habitudes, de conseils qui étaient donnés par les grand-mères, certainement, pour une certaine régulation des naissances. Quoi qu'il en soit, tous les enfants sont égaux à la naissance. S'ils ont pu triompher des risques de la prématurité fréquente, des dangers de l'accouchement et des premiers mois difficiles de leur vie, si malgré les épidémies de la petite enfance, le croup et la petite vérole en particulier, ils parviennent à franchir le cap des 7 ans, alors ils sont à peu près assurés de vivre vieux, sauf accident imprévisible. Ils atteindront plus de 60 ans, 90 ans même, la sélection naturelle ayant joué, on vivait vieux à cette époque. Mais l'égalité alors n'existait plus devant la mort. Les uns auraient le droit d'être ensevelis dans le cœur de l'église, d'autres dans la nef, et les gens du commun au cimetière, et les lépreux à la maladrerie. Chacun sera traité en fonction de son rang devant la mort, de sa position dans la société, cette société inégalitaire fortement hiérarchisée.